L'Europe centrale, aujourd'hui encore, cet espace continue à fasciner les chercheurs locaux et étrangers. Mais parfois, on le distingue mieux en l'observant de Paris que de Prague. C'est sans doute la raison pour laquelle une vingtaine de spécialistes, historiens, historiens de la littérature et philosophes, se sont réunis autour d'une publication commune, publication de l'Institut d'études slaves de Paris et de l'Université Masaryk de Brno, et ce afin de cerner les caractéristiques de cette région. Leur livre, intitulé Culture et identité en Europe centrale, Canon littéraire et vision de l'histoire, est paru en 2011. Toutefois, même ce condensé d'analyse et de réflexion n'a pas permis d'épuiser le sujet. C'est pourquoi plusieurs de ces chercheurs se sont retrouvés récemment en Prague pour une conférence intitulée Les canons de la culture en Europe centrale, perspectives socio-historiques, une conférence dont Lucie Draxelova et Pierre Maignan vous rapportent l'essentiel. Il s'agit là d'une rediffusion de l'émission du 19 novembre 2013.
Panorama.
Panorama.
La conférence, qui s'est tenue le 23 octobre, s'intéressait à la culture de l'Europe centrale d'une perspective socio-historique et la concevait comme un reflet des transformations sociales. L'objectif de cette rencontre entre une dizaine de spécialistes de la région était de voir dans quelle mesure l'Europe centrale peut être définie comme un ensemble culturel cohérent. Les chercheurs présents ont consacré une première table ronde entièrement à la définition du terme des canons culturels. Voici la contribution de Michel Maslowski, professeur de littérature à la Sorbonne.
D'abord, que c'est un canon. Il y a des définitions, notamment d'une sociologue polonaise, Koskowska, très bonne définition. Canon de la culture, c'est un certain nombre de références culturelles que tout le monde qui veut appartenir à cette culture doit connaître. Vous pouvez ne pas avoir lu Hašek ou Holland, mais vous savez qui c'est. Et pour un Polonais, Mickiewicz ou Chopin, etc., ou Dvořák pour un Tchèque. Et c'est-à-dire que même si on ne connaît pas, on sait qui c'est, et c'est grâce à cela que je me sens Tchèque ou Polonais ou Hongrois ou Slovaque.
Pour Petr Kilouchek, directeur du département des langues romanes et enseignant à l'université Masaryk de Brno, un canon, c'est un ensemble de discours identitaires dont le rapport change dans le temps. Il complète.
Disons que c'est un ensemble de références culturelles, littéraires, cinématographiques, peintures, sculptures, architectures, etc. Et surtout les grands noms qui sont liés à... disons à la littérature et à l'art et à la politique et à l'histoire qui sont en quelque sorte déposés dans la mémoire culturelle. Voilà. Et disons, c'est à cet ensemble qu'ensuite la culture se réfère ou la population se réfère, très souvent en rapport avec leur identité.
En résumé, un canon culturel, c'est donc le plus petit dénominateur commun culturel d'un peuple. Il y a des racines anciennes à ce dénominateur, mais Petr Kilouchek, comme Michel Maslowski, souligne que les canons évoluent dans le temps. Michel Maslowski.
Il y a des racines anciennes, et il y a toute une histoire, il y a l'histoire des interprétations, parce que les mêmes éléments peuvent signifier tout à fait autre chose à une autre époque, dans un autre contexte historique. Mais il y a une continuité.
L'idée de base que défend Michel Maslowski est celle qu'en Europe centrale, les peuples s'unissent par la culture et non par des institutions politiques. Selon lui, ce n'est pas un hasard si l'on se demande dans l'hymne national tchèque « Où est ma maison, où est ma patrie ?» et non « Où est mon roi ?». Pour comprendre l'importance de ces canons culturels pour l'Europe centrale, il faut remonter dans le temps, à l'époque du haut et du bas Moyen-Âge, étudier l'espace historique des royaumes tchèques, polonais et hongrois.
Le canon est très important en Europe centrale à cause de l'histoire très mouvementée des pays qui étaient assez puissants et qui disparaissaient. Et donc, après, c'est par la culture, au XIXe siècle, qui se sont constitués. Et donc, c'est pour cela, ils n'ont pas besoin de tribunal pour savoir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Ils n'ont pas besoin de président pour se sentir représenté. Et s'il est là, tant mieux. S'il n'est pas là, tant pis. Mais c'est le consensus, quelque part, culturel qui décide. Et dans ce cas-là, on se réfère à l'histoire ancienne, évidemment. Pour Palatsky, Jan Hus a constitué la tradition tchèque, n'est-ce pas?
Petr Kiloušek, qui est lui spécialiste de l'étude des mythes, ajoute que celui qui veut se sentir tchèque fera référence à Charles IV, à Jan Hus ou à Comenius. Dans leur contribution à la conférence, Petr Kiloušek et Michel Maslowski ont proposé leur vision de la manière dont se sont imposés ces canons culturels au XIXe siècle.
Comme il n'y avait pas de pouvoir politique reconnu, parce qu'il y avait un pouvoir politique à Vienne, n'est-ce pas ? Il n'était pas reconnu par la population. Du coup, les intellectuels ont été reconnus par les milieux. Mir Sakhor a très bien analysé ce processus. Il y avait trois étapes. Premièrement, les élites qui définissaient. Ensuite, il y avait l'éducation, en quelque sorte, des masses qui partageaient. Après, la phase des militantismes.
La thèse de Miroslav Hroch, historien et enseignant à l'Université Charles de Prague, lui a valu une renommée internationale. Il l'a popularisée notamment dans son œuvre « Les préconditions sociales du renouveau national en Europe ». Petr Kiloušek introduit une distinction entre un canon culturel véhiculé par les élites et un canon culturel du peuple ordinaire. Selon lui, ces deux dénominateurs identitaires sont souvent différents. Néanmoins, nous avons peu de traces du canon populaire. En revanche, le canon imposé par les élites est très souvent pétrifié dans la littérature et constitue notre source d'information de l'époque.
Mais je pense que justement le canon tel qu'il s'est constitué, surtout tel qu'il s'est formulé au cours du 19e et du 20e siècle, disons par les grands éveilleurs de la nation tchèque, par les historiens, par la linguiste, par la littéraire, etc. Le canon, il est en quelque sorte défini et transmis aux générations suivantes par les élites. Et je pense qu'il y a eu une différence entre, disons, cette culture élitiste, les intellectuels d'une part, et d'autre part la culture populaire. Et la culture populaire qui a d'autres références et qui peut-être est beaucoup plus universaliste, qui ressemble beaucoup plus aux cultures des pays environnants, par exemple, le mode de vie, la cuisine, etc. N'empêche que une bonne partie de la culture populaire, justement, peut entrer comme élément constitutif dans le canon national, mais ce travail se fait par le moyen des intellectuels qui récupèrent en quelque sorte cette culture populaire. C'est le cas du 19e siècle, en quelque sorte aussi du romantisme qui a récupéré justement cette culture populaire, du folklore dans la culture nationale.
Dans la seconde partie de la conférence, les intervenants ont débattu des caractéristiques réunissant les peuples centro-européens, l'occasion pour Michel Maslowski d'opposer l'identité dominante en Europe centrale à celle d'Europe occidentale. Si les références à la mémoire et à la culture sont davantage présentes dans cette région centrale, en Europe occidentale, en revanche, c'est une identité positionnelle qui prévaut.
Schématiquement, en Europe centrale, à cause de l'importance de la culture, l'identité culturelle, et qui se réfère à des modèles culturels plus importants que l'identité positionnelle, c'est-à-dire les postes, l'argent, etc. Il suffit de lire les romans tchèques, il suffit d'aller dans une hospoda pour voir où les tchèques se sentent tchèques, n'est-ce pas ? Alors qu'en Occident, domine l'identité positionnelle, c'est mes diplômes, ma carrière, et mon compte en banque, etc., qui me donne l'identité.
On termine en évoquant la contribution de Miroslav Hroch à la conférence, dans laquelle il a fourni des éléments nécessaires pour délimiter la macro-région de l'Europe centrale. Pour ce faire, il a proposé de prendre en compte trois éléments. En premier lieu, l'autodétermination, c'est-à-dire si les gens considèrent appartenir à l'Europe centrale. En second lieu, les liens internes, qui devraient être plus forts qu'à l'externe au niveau du commerce, de la culture ou de la religion. En dernier lieu, l'expérience commune ou bien l'absence dans certains types d'expériences, comme les découvertes outre-mer au XIXe siècle. Selon Miroslav Hroch, l'importance de ces différents aspects change dans le temps. Par exemple, au XVIe siècle, il y avait un sentiment fédérateur du danger commun de l'invasion turque. Ensuite, la région était le berceau des premiers mouvements patriotiques. En revanche, après le traité de Versailles et encore plus après la Seconde Guerre mondiale, cet espace a été confiné à la mémoire et à une idéologie potentielle. Mais pour Miroslav Hroch, les points communs persistent. Parmi eux, une tradition de la pluralité des confessions, une perception stéréotypée d'un un ennemi venant de l'Est, soit le russe ou le turc, et une plus grande sensibilité à la diversification ethnique qui se manifeste notamment par une animosité envers les étrangers. Au-delà de la publication franco-tchèque de 2011, la coopération entre les chercheurs se poursuit notamment par le biais de conférences comme celle de Prague. Il ne s'agissait pas sans doute du dernier rendez-vous pour débattre des canons culturels en Europe centrale.